RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Martin Guez. Les sirènes ont retenti toute la nuit en Israël après la riposte iranienne.
Riposte qui a fait au moins 3 morts sur le territoire israélien, selon les secours locaux, après l'envoi de dizaines de missiles. Téhéran dit par ailleurs avoir abattu des drones israéliens, l'État hébreu qui a ciblé les systèmes de défense iraniens. Ce matin, nous ferons le point dès le début de cette édition. Le conflit entre Israël et l'Iran qui fait craindre un embrasement régional, très redouté notamment en Irak, alors que le pays tente coûte que coûte de maintenir la paix ces dernières années. Dans ce journal, nous serons aussi aux États-Unis pendant que les marines et la garde nationale patrouillent à Los Angeles. Donald Trump fête son anniversaire à Washington avec un immense défilé militaire. Nous serons aussi à Mayotte, 6 mois après le passage du cyclone Chido. Des centaines de migrants survivent dans des conditions déplorables. Reportage à suivre dans ce département dévasté. Et puis enfin, Coupe du Monde. Des clubs, grand format aux États-Unis. Une première du genre qui débute avec un certain Léo Messi qui entend porter l'Inter Miami et porter cette nouvelle compétition.
Après les frappes massives israéliennes de ce vendredi, le conflit prend de l'ampleur et l'Iran a riposté toute la nuit.
Après l'envoi de drones hier, Téhéran a cette fois-ci lancé des dizaines de missiles balistiques qui ont touché une grande partie du territoire israélien. À Tel Aviv, à Jérusalem, près d'Haïfa, mais aussi dans la plaine côtière et dans le centre du pays. On fait le point sur les opérations de la nuit avec Guilhem Deltey du service international de RFI. Bonjour Guilhem.
Bonjour Martin.
Les frappes iraniennes qui ont fait des dizaines de blessés et qui ont fait 3 morts selon les secours israéliens.
Oui, dans la soirée ce vendredi, les Israéliens ont reçu une première consigne de se rendre dans leurs abris. L'Iran venait de tirer alors des dizaines de missiles sur le pays. L'alerte a ensuite été levée, mais avec la consigne cette fois-ci de rester à proximité des abris. D'autres vagues ont effectivement suivi dans la nuit. L'Iran affirme viser des cibles militaires, notamment le siège de l'armée à Tel Aviv, mais plusieurs zones résidentielles ont également été atteintes. De son côté, Israël poursuit aussi ses opérations. Un site d'enrichissement d'uranium à Ispahan a notamment été ciblé cette nuit. Un aéroport de Téhéran aurait également été touché. L'appel du secrétaire général de l'ONU n'a pas été entendu. Assez de l'escalade, il est temps que ça cesse. La paix et la diplomatie doivent l'emporter, a écrit Antonio Guterres sur le réseau social X. Mais pour l'instant, les deux parties continuent de se menacer de représailles lourdes.
Merci beaucoup, Guilhem Deltey, en direct de nos studios sur RFI. Ce conflit entre Israël et l'Iran qui fait craindre un embrasement régional. De nombreux pays ont d'ailleurs fermé leur espace aérien à l'image de l'Irak. L'Irak où des groupes armés pro-iraniens ont réclamé le départ des troupes américaines déployées dans le pays, accusant Washington d'avoir coordonné les frappes israéliennes contre l'Iran, l'escalade entre Israël et l'Iran qui inquiète en Irak et qui met en péril la posture irakienne régionale, l'Irak qui veut à tout prix éviter la guerre, Marie-Charles Troupy.
Malgré quelques incidents isolés, l'Irak a échappé jusqu'à présent au bouleversement que subit la région depuis 2 ans. Le gouvernement irakien a adopté une position modérée, voire de médiateur, pour maintenir ses relations avec les États-Unis et l'Iran. Mais pour Ersan Eshamari, analyste politique irakien, cette posture fragile, presque artificielle, ne tient plus.
Le gouvernement tente de tenir le territoire irakien éloigné des conséquences du conflit. Il ne veut pas paraître comme soutenant un camp contre un autre. Mais en réalité, ce sont les factions armées alliées au Premier ministre qui détiennent le pouvoir de décision en Irak. À présent, ils sont semble difficile pour ces factions de maintenir cette même position, la retenue.
En effet, les déclarations de ces factions armées proches de l'Iran ce vendredi se sont durcies. Elles défendront Téhéran. Et bien que certaines nuances disant vouloir éviter la déstabilisation de l'Irak, elles sont prêtes à se battre si l'escalade se poursuit. Ersan Eshamari.
À mon avis, l'Irak a rompu avec sa politique d'équilibre et apparaît désormais comme s'alignant davantage sur le camp iranien. C'est une phase, une véritable mise à l'épreuve.
Face à la poursuite des bombardements en Israël et en Iran, l'Irak se prépare à la possibilité d'être le prochain sur la liste. Marie-Charles Troupy, Bagdad RFI.
Et le conflit ouvert entre Israël et l'Iran, on en reparle juste après ce journal avec les invités de Julien Coquelroem, à savoir l'historien Jonathan Piron et l'ancien officier Guillaume Ancel. Aux États-Unis, Donald Trump envoie les marines à Los Angeles, 700 marines déployées dans la deuxième ville du pays qui s'additionnent aux 4000 réservistes de la garde nationale déjà mobilisés. Alors que ce samedi, les opposants à la politique du président républicain se réunissent dans tout le pays pour protester contre le virage autoritaire du pouvoir en place. Donald Trump qui s'offre lui ce samedi une grande parade militaire à Washington pour fêter les 250 ans de l'armée américaine et pour fêter son 79e anniversaire, Marine de la Moissonnière.
C'est en assistant aux cérémonies du 14 juillet à Paris en 2017 que Donald Trump s'est dit qu'il aimerait bien lui aussi avoir son défilé. Le président américain qui n'a jamais fait son service militaire est fier d'être, comme il aime à le répéter, à la tête de l'armée la plus puissante du monde, une armée qu'il tente, comme beaucoup d'autres institutions de mettre au pas, quitte à la fragiliser, en envoyant des soldats surveiller la frontière avec le Mexique ou en les déployant dans les rues de Los Angeles. Donald Trump les met au service de ses combats idéologiques et politise l'armée. Ce défilé, ce n'est donc pas vraiment pour la célébrer, mais plutôt pour se faire plaisir. On va crâner un peu, a reconnu Donald Trump. Les parades militaires ne sont pas du tout dans les habitudes américaines. La dernière remonte à 1991 et à la fin de la guerre du Golfe. Les détracteurs de Donald Trump dénoncent un coûteux défilé à sa gloire, digne d'un dictateur. Des manifestations d'opposants sont prévues ce samedi dans tout le pays à l'occasion de ce qui a été baptisé le No King's Day.
Un cadeau d'anniversaire qui coûtera tout de même 45 millions de dollars.
RFI.
RFI 10h06 à Mamoudzou, c'était il y a 6 mois jour pour jour, le cyclone Chido balayait Mayotte, département français de l'océan Indien. La catastrophe avait fait 40 morts et provoqué d'immenses dégâts. Mayotte, où 300 exilés africains survivent dans des conditions indignes, venus pour beaucoup des Grands Lacs et de Somalie. Le nombre d'hébergements est largement insuffisant sur le territoire. Beaucoup vivent à la rue ou dans ce camp en pleine forêt où les a installés la préfecture. Reportage de Lisa Morisseau.
À l'extrémité du camp, des hommes s'activent. Ils creusent un grand trou. Cela servira de toilette. Il n'y en a pas dans le camp, ni de douche. Chacun fait ses besoins dehors, mais cela met en danger les femmes. Une Congolaise qu'on appellera Grace, 26 ans, a été agressée dans ce contexte.
Les conditions du camp sont compliquées, surtout pour les femmes. Par exemple, ça peut vous arriver la nuit, vers minuit, vous avez un petit besoin, vous pouvez vous soulager. Tu dois parcourir les risques de sortir dehors dans les camps. Il y a des hommes, surtout des hommes ne dorment pas, ils passent des nuits à prendre de l'alcool. En étant une femme, je suis exposée involontairement.
Récemment, une exilée a par ailleurs déposé plainte pour viol. Les hommes aussi subissent des violences. Bienvenue, 24 ans.
Ici, il y a des enfants, des adolescents qui nous jettent des cailloux. Chaque jour, il y a des gens qui sont blessés, les autres les ont poignardés. Vraiment, ça fait mal.
Les occupants attendent que leur situation administrative avance. Ils ont demandé l'asile à la France, mais pendant plusieurs mois, la préfecture a été bloquée par un collectif xénophobe. Cela a entraîné d'énormes retards dans le traitement des dossiers. Après avoir fui les persécutions en RDC, jamais Grace n'aurait imaginé que la vie serait aussi compliquée à Mayotte.
On nous avait dit que si vous arrivez à Mayotte c'est la France. À la France, il y a la paix, et il y a la fraternité, l'égalité et tout. En arrivant ici à Mayotte, c'est ce que nous vivons.
Actuellement, 600 places d'hébergement sont destinées aux demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire, alors qu'il en faudrait 3000. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Et on vient aussi ce matin sur RFI sur la suppression des droits de douane chinois pour tous les pays africains. Jusqu'ici, 33 pays du continent étaient exemptés. Désormais, ils sont 53, à l'exception seule de l'Eswatini, avec qui Pékin n'a plus de relations diplomatiques. Objectif de la Chine, développer les échanges commerciaux, une mesure qui pourrait surtout bénéficier aux grandes économies industrielles du continent, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou encore le Maroc. Mais pour Xavier Aurégnan, chercheur à l'Université catholique de Lille, plus qu'une annonce économique, cette suppression est un geste politique.
Puisque le continent africain exporte peu de produits transformés vers la Chine, essentiellement des matières premières. Et donc l'annonce faite par Pékin forcément va être limitée en conséquences économiques, commerciales pour les pays africains. Certains pays africains pourraient effectivement gagner quelques devises, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, un petit peu l'Éthiopie ou le Maroc et l'Égypte. Donc des pays qui sont relativement industrialisés, qui peuvent exporter des produits transformés vers Pékin. Mais pour les autres, au Sahel ou ailleurs, en Afrique centrale, où on exporte quasiment que des matières premières brutes, non transformées, l'annonce qu'ils ont sera peut-être vue d'une manière bienveillante, mais fatalement, ça ne changera pas grand-chose pour la balance commerciale. C'est une annonce qui est politique dans le sens où elle va évidemment à l'encontre des annonces de Washington, forcément après l'USAID, et tergiversation un petit peu du gouvernement Trump, forcément la Chine essaie de prendre à contre-pied la politique étrangère américaine, et commerciale d'ailleurs, et entend s'afficher évidemment comme le pays qui va venir au secours de populations ou d'élites africaines, sachant que Washington fait marche arrière.
Des propos recueillis par Alexandra Branjon. L'actualité en Europe à présent et les 40 ans de l'espace Schengen fêtés aujourd'hui au Luxembourg. À l'origine, il n'était que 5 en 1985. Le Benelux, la France et l'Allemagne, ils sont aujourd'hui 29 pays membres de cet espace de libre circulation. Allez, on termine sur les terrains en basket. D'abord, la foudre s'abat sur l'Indiana. Un éclair de dernière minute qui permet au Thunder d'égaliser à 2-2 en finale de la NBA. Dans ce match 4, les Pacers d'Indiana ont longtemps fait la course en tête portée par le Camerounais Pascal Siakam, mais Oklahoma City a finalement renversé le match pour s'imposer 111 à 104. Prochain match mardi sur le parquet d'Oklahoma. Et puis enfin en football, c'est une curiosité mondiale qui attire bien des regards. La première Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. débute aux États-Unis. Un levé de rideau XXL avant le mondial l'an prochain. Des clubs venus du monde entier. Ça commence à Miami, entre les Égyptiens d'Al Ahly et l'Inter Miami d'un certain Léo Messi, 38 ans, et tout son talent, ambassadeur de choix pour mettre en lumière cette première, Thomas de Saint-Léger.
C'est un temple Messi en plein Miami. Des chaussures siglées au célèbre maillot rose numéro 10, le plus vendu au monde. Tout y est. Ici, l'homme au pied gauche magique est une marque, sa présence une révolution pour le sport américain. Michel Kaufmann, journaliste au Miami Herald.
Il y a un avant et un après Messi. Partout où il va, il y a des centaines de personnes qui l'attendent devant son hôtel. On n'avait jamais vu ça pour un footballeur, même pour un basketteur de la NBA. Messi, c'est comme une religion.
Un culte pour les adeptes, une source de curiosité pour les autres. Messi fait venir les Américains dans les stades de soccer et pas seulement là où les communautés latinos sont très présentes.
Quand l'Inter Miami joue à l'extérieur, les adversaires déplacent le match dans des stades plus grands, dans des stades de football américain. Et les gens viennent pour avoir la chance de voir Messi jouer.
Un effet Messi dont bénéficie toute la MLS, la Ligue de soccer nord-américaine. Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami, et ancien coéquipier du numéro 10 avec la sélection argentine.
C'est le moment idéal pour se développer. Léo joue dans le championnat, il y a le mondial des clubs cette année, la Coupe du Monde l'été prochain. Et évidemment, Léo a une influence majeure dans tout ça.
Mais même la magie, Messi a ses limites. Faute de demandes suffisantes, les billets pour le match d'ouverture ce soir sont vendus à prix cassé. 65 000 spectateurs sont espérés. Thomas Saint-Léger, Miami RFI.
Et Miami Al Ahly à suivre à minuit, en temps universel 9h12. Ici à Paris, vous retrouvez Julien Coquelin-Rohem.
Merci à Martin Guez, bonne journée à vous. RFI Matin, toujours en édition spéciale, alors que les tirs entre l'Iran et Israël ont continué toute la nuit. 3 morts et des dizaines de blessés côté israélien sous les missiles iraniens. De nouvelles frappes israéliennes, notamment sur des sites nucléaires. Jusqu'où peut aller l'escalade entre les deux pays, alors que l'Iran accuse Israël de lui avoir déclaré la guerre et que les frappes israéliennes de la nuit dernière ont fait au moins 78 morts dans le pays. On continue d'en parler jusqu'à 7h30, temps universel.
Édition spéciale sur RFI.
Et j'accueille tout de suite nos deux invités. Bonjour Jonathan Piron.
Bonjour.
Historien et spécialiste de l'Iran, merci d'être à nouveau avec nous ce matin après nous avoir aidé à comprendre la situation déjà hier. J'accueille aussi Guillaume Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Ancien officier et chroniqueur sur le blog Ne pas subir. On va parler notamment des questions militaires et stratégiques qui se posent avec vous. Alors, la guerre entre l'État hébreu et la République islamique est-elle déclarée, comme l'affirment les autorités iraniennes? Après les frappes israéliennes sans précédent contre l'Iran hier, la riposte de Téhéran a en tout cas commencé hier soir et on retrouve à Jérusalem notre correspondant Sami Bourlifa. Bonjour Sami.
Bonjour à tous.
3 vagues successives de missiles balistiques se sont abattues cette nuit sur l'État hébreu, principalement sur Tel Aviv et la côte israélienne.
Les sirènes d'alerte ont résonné dans tout le pays. 3 salves de missiles balistiques tirées donc depuis l'Iran à quelques 2000 kilomètres d'ici. On les a vus dans le ciel de Jérusalem passer au-dessus de la ville sainte en direction de l'ouest vers Tel Aviv, comme une pluie d'étoiles filantes au moment où les missiles balistiques pénètrent dans l'atmosphère. Le dispositif antiaérien israélien est entré en action. Plusieurs déflagrations entendues. Il y a eu des interceptions, mais certains missiles ont bien atteint leur cible, et notamment à Tel Aviv où le ciel a été embrasé par des boules de feu, des scènes surréalistes, et puis ces colonnes de fumée qui s'élèvent entre les gratte-ciels. Le quartier du ministère de la Défense israélien à Tel Aviv a été frappé. Le site militaire est interdit d'accès. Difficile de dire s'il a été lourdement touché, mais en tout cas à proximité, j'ai pu voir au moins une tour d'habitation éventrée, atteinte de plein fouet. La population israélienne, très disciplinée lorsqu'il y a des tirs de roquettes ou des missiles, est restée dans les abris. L'Iran, quant à lui, a lancé cette attaque en représailles à l'agression israélienne contre son territoire.
Merci Sami Bourlifa. Et alors que cette nuit, l'armée israélienne a continué de frapper l'Iran, notamment le site nucléaire d'Ispahan et un aéroport à Téhéran, on fait le tour des réactions dans la presse internationale avec vous. Catherine Potet, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
L'escalade entre l'Iran et Israël est évidemment à la une des journaux ce matin.
Oui, comme on s'y attendait, l'Iran a mené cette nuit une opération de représailles contre les frappes israéliennes. Le Jérusalem Post a passé, nous dit-il, une nuit dans dans un abri israélien sous les missiles iraniens. L'un des habitants raconte « J'étais à un dîner pour Shabbat lorsque les deux vagues de missiles ont été lancées depuis l'Iran. Nous étions une vingtaine et nous avons été stupéfaits de voir la vidéo d'un missile s'écraser sur le centre d'Israël, d'autant que ça s'est passé à seulement quelques pâtés de maison d'où nous nous trouvions. » Le reporter du Jérusalem Post raconte les centaines de secouristes qui sont sur place. Plusieurs heures après le drame, précise-t-il, des familles sortaient encore du bâtiment, des parents portaient des bébés. Je n'ai vu ni larmes ni panique, seulement des gens qui en ont tellement vu, qui ont tellement vécu et qui sont terriblement fatigués.
De son côté, le Courrier international a cherché à savoir comment les Iraniens réagissent aux frappes menées hier par Israël.
Réveillés en pleine nuit par le bruit assourdissant des multiples explosions dues aux frappes, nous dit-on, les habitants de Téhéran sont descendus en panique dans les rues. Dès le matin, de longues files d'attente se sont formées devant les stations-service, aussi bien à Téhéran qu'ailleurs dans les grandes villes du pays, par crainte de pénurie ou de hausse des prix. Courrier international reprend par ailleurs les propos du site réformateur Asre Iran, qui reproche au régime de ne pas avoir pris au sérieux les avertissements contre une possible infiltration des services de renseignement israéliens. Le même site d'information iranien ajoute que si le régime n'est pas en mesure de faire regretter aux Israéliens leur attaque par une riposte d'envergure, il vaudrait mieux envisager une révision en profondeur de sa politique vis-à-vis d'Israël.
Et la situation, en tout cas, suscite l'inquiétude.
Inquiétude exprimée notamment par le journal Libération, qui parle d'un embrasement dangereux aux accents religieux. L'attaque israélienne spectaculaire contre l'Iran, poursuit le quotidien français, représente d'un point de vue militaire une énorme réussite. Du point de vue politique, par contre, elle met en danger des millions de civils, y compris la population israélienne, et elle fait basculer le Moyen-Orient dans un embrasement que les pompiers habituels, les États-Unis, le Conseil de sécurité et les États avoisinants ne veulent plus éteindre. Enfin, en Espagne, El País parle d'un pari risqué, estimant que l'attaque israélienne encourage ceux qui en Iran voient la bombe atomique comme une garantie de survie du régime.
Merci beaucoup Catherine Potet. Je me tourne à nouveau vers nos invités. D'abord, messieurs, vous faire réagir à l'ampleur de ce à quoi nous assistons. Jonathan Piron, entre les frappes israéliennes d'une ampleur inédite sur l'Iran hier et le ministre israélien de la Défense qui accuse Téhéran d'avoir franchi des lignes rouges, le cap de la guerre a-t-il été franchi entre les deux pays ?
La question en fait qui se pose maintenant, c'est quelles sont les suites, parce qu'on est en effet dans une escalade avec toute série de frappes qui ont été réalisées. Comment est-ce qu'Israël maintenant va réagir aux salves de missiles qui ont été envoyées sur son territoire ? On voit que les opérations continuent, que Netanyahou affirme d'ailleurs qu'elles ne vont pas s'arrêter. Le régime iranien est aussi dans toute une série de postures, de déclarations, notamment sur l'idée d'une déclaration de guerre. Mais on sait aussi que le régime iranien est très limité dans ses moyens d'action. Ici, visiblement, ce sont 150 missiles qui auraient été lancés sur Israël. L'Iran en aurait aux alentours de 2000. Mais c'est presque ses seuls moyens, en fait, à disposition, puisqu'on sait que son armée conventionnelle est clairement, en fait, dans une situation de faiblesse par rapport aux moyens conventionnels israéliens. Et surtout, en cas de confrontation avec Israël, les États-Unis viendraient certainement soutenir le gouvernement Netanyahou. Et dans ce cadre-là, encore une fois, les Iraniens n'ont pas les moyens de faire face. Donc ces choix sont assez limités. On va voir beaucoup de postures, peut-être encore des nouvelles salves d'attaques. Mais ses alliés dans la région n'existent plus non plus. Et donc l'Iran est un peu contraint par la situation avec des choix qui sont vraiment très compliqués pour lui à court terme.
Alors en attendant, et on va reparler de la suite, mais on va aussi continuer d'analyser ce qui s'est passé cette nuit. Guillaume Ancel, quelle différence par rapport aux échanges de tirs de 2024 entre les deux pays ? Quels enseignements tirés notamment de l'ampleur des frappes et de la nature des cibles visées par Téhéran depuis hier soir ?
Oui, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une attaque fulgurante d'Israël, puisque les Iraniens n'ont absolument pas vu le coup arriver, et une attaque massive. Mais j'y reviendrai, pas si massive que ça. D'abord, il faut rappeler à tout le monde que c'est une guerre à distance. Il y a 1700 kilomètres entre l'Iran et Israël. Donc on n'est pas dans le cas d'un affrontement conventionnel terrestre comme quand la Russie a essayé d'envahir l'Ukraine et puis qu'elle prend position sur son territoire. Là, tout se fait à partir de bombardements à distance. Les Israéliens utilisant essentiellement des vecteurs aériens, donc des avions et des drones, et les Iraniens ayant, comme l'a rappelé Jonathan, finalement des moyens plutôt limités pour frapper en riposte Israël. On voit d'ailleurs que leur riposte pour l'instant était assez désorganisée. Ce que craignait le plus Israël, c'était une attaque massive de missiles, comme en avril 2024, où le dôme de fer avait totalement été saturé. Et là, bien sûr, de toute façon, les Israéliens ont besoin de la protection des États-Unis. Je rappelle quand même que Israël est un tout petit pays de 10 millions d'habitants et qui, évidemment, peut être très facilement menacé. Donc, on va sans doute assister à plusieurs vagues, parce que les Israéliens aussi ont des moyens, somme toute, assez limités pour attaquer l'Iran. Vous voyez, ils ont réussi à
le faire sur le temps long.
Alors, justement, ils sont obligés de le faire sur le temps long. Regardez, hier, on a dit c'est une frappe massive, mais en fait, ils n'ont fait qu'une centaine, entre 100 et 200 frappes sur 24 heures de vagues. Pourquoi ? Parce que c'est loin. Et par conséquent, pour mener ces raids aériens, ils ont besoin de mobiliser toute leur aviation et qu'ils ne peuvent pas faire autant de frappes que comme ils avaient pu le faire contre le Hezbollah, par exemple, au Liban, qui était juste à proximité. Donc il y a cette question de distance. Je rappelle d'ailleurs au passage que pour les naïfs qui penseraient que Israël a fait ça tout seul, bien évidemment, ouais, les États-Unis sont avec eux, puisque les Israéliens n'ont ni ravitailleurs en vol, ni avions de contrôle aérien. Donc évidemment, c'est les Américains qui fournissent le soutien, mais
on va en
c'est
reparler,
vraiment qu'Israël qui frappe.
Mais on voit que ces missiles parviennent aussi à déjouer, ces missiles iraniens, la défense aérienne jusqu'en plein centre de Tel Aviv. On apprend d'ailleurs ce matin qu'au moins une des salves n'a été précédée d'aucune alerte. Sommes-nous en train de voir les signes de faiblesse de la défense israélienne ? Est-ce que l'État hébreu a autant que d'habitude la capacité de calculer le risque ?
Alors, en fait, les Israéliens sont plutôt bien préparés à ce genre de frappe. Regardez, bien sûr, le bilan est triste, il y a plusieurs morts, il y a des dizaines de blessés. Mais l'Iran a tiré au moins 150 missiles. Les dégâts sont très peu importants quand on le rapporte à l'ampleur des moyens qui ont été utilisés. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, essentielle, c'est que les Israéliens ont normalement un bon système d'alerte et que la plupart de la population était à l'abri, sauf dans le cas que vous avez cité. Et on voit que tout de suite, ça fait des dégâts. Et puis la deuxième chose, c'est que le dôme de fer, bien sûr, est un système impressionnant, mais il n'a jamais été un parapluie étanche. Et ça, c'est un peu la propagande des industriels de l'armement qui vous explique toujours qu'ils ont trouvé la solution à tous vos problèmes. Dans la réalité, il a toujours saturé à 90% d'interception. Et quand on est face à une frappe massive, eh bien là, le dôme de fer descendrait à 50, 60%, pas plus. Donc, ce que craignait le plus Israël et ce qu'ils craignent pour les jours suivants, c'est une riposte bien mieux organisée, de l'Iran. Là, on voit que l'Iran a essayé de frapper très vite. C'était une riposte immédiate, mais mal organisée et probablement déstructurée par les premières frappes israéliennes qui ont frappé aussi des centres de commandement et de planification importants.
Jonathan Piron, après les frappes d'hier sur l'Iran qui ont décapité une partie de son commandement, le pays a-t-il la capacité de cette réponse organisée dont parle Guillaume Ancel et qui serait le principal risque pour Israël ?
Il a une capacité de réponse, oui. Il peut, comme l'a dit Guillaume Ancel, continuer à frapper massivement, il en a les moyens.
Mais il peut monter en puissance ?
En fait, ça revient, c'est une décision politique. Est-ce que maintenant, le régime iranien est prêt à franchir ce cap qui est un peu le cap du non-retour ? En fait, le régime iranien, pour résumer de manière simpliste, est face à des choix qui se résument entre le mauvais et le pire. Et donc, il doit maintenant essayer de réfléchir sur les différents scénarios, quel est finalement celui qui n'est pas le pire, mais qui permet quand même d'essayer de rétablir, non pas un équilibre, mais en tout cas une espèce de dissuasion. Mais on voit maintenant ici que le régime iranien n'est même pas capable de défendre ses installations et encore moins ses personnalités. Et d'ailleurs, quand on a quelques retours aujourd'hui qui viennent de la société iranienne, c'est très difficile d'avoir accès aux informations puisque le pays est largement fermé. Mais on voit que l'émotion d'hier fait face aujourd'hui à des colères, des interrogations de la part d'une partie de la population qu'on peut contacter et qui demande mais pourquoi le régime ne nous défend pas ? Comment est-il possible que les installations antiaériennes soient aussi inutiles ou faibles ? Et comment aussi des personnalités de haut rang se retrouvaient dans des buildings alors qu'on sait que le pays est menacé ? Donc toute série d'interrogations qui montent pour le moment avec aussi une fibre patriotique, nationaliste qui est importante et qui demande à ce que l'État, le pays soit protégé. Donc le régime est un peu bloqué parce qu'il sait que s'il se lance dans une réponse massive contre Israël, les répliques vont être très violentes. L'autre solution, alors peut-être maintenant, qui est en train d'être débattue, c'est de se dire que dans le scénario du mauvais ou du pire, eh bien finalement, il ne reste qu'un seul élément pour sanctuariser le territoire, c'est se lancer dans l'acquisition de l'arme nucléaire.
Et vous parliez de des capacités de défense limitées de l'Iran. L'armée israélienne dit à l'instant frapper des dizaines de lanceurs de missiles dans le pays. L'une des grandes questions depuis hier matin, c'est aussi le degré d'implication des États-Unis. Washington dit n'avoir joué aucun rôle dans les frappes israéliennes, mais Donald Trump dit en avoir été prévenu. L'Iran accuse, lui, les Américains d'être complices. Alors on a entendu Guillaume Ancel nous dire que c'était parfaitement impossible que les États-Unis n'aient pas été impliqués. Qu'en pensez-vous, Jonathan Piron ? Est-il possible que Washington n'ait été que prévenu de cette opération ?
Ah, sur les questions militaires, Guillaume Ancel est bien plus spécialiste que moi. Ici, sur les questions politiques, je pense évidemment que Trump a dû être au courant, que le CENTCOM, qui notamment supervise en fait le Moyen-Orient, a certainement été informé des passages qui étaient prévus par les forces israéliennes. Maintenant, on se retrouve dans la situation aussi délicate un peu pour Trump, c'est qu'il voulait un accord sur le nucléaire avec l'Iran, il voulait aussi d'une paix, il annonçait assez régulièrement, un nouveau round de négociations était prévu ce dimanche, et ici, en fait, il se retrouve un peu contraint et forcé par la réaction israélienne. Il est obligé de la soutenir, alors oui. Que finalement, elle ne va pas dans sa ligne politique.
Et donc, il s'en sert finalement comme un moyen de pression, puisqu'il a dit, attention, les prochaines attaques seront plus brutales, il faut que nous parvenions à un accord. Il s'en saisit comme d'une opportunité, finalement, ou il est contraint de le faire ?
Il est contraint de le faire, donc c'est aussi la rhétorique de Trump qui essaie de reprendre à son avantage des situations qui peuvent lui être défavorables. Maintenant, dans le cadre actuel, il semble impensable que les Iraniens acceptent de revenir à la table de négociation.
Et alors que l'Iran a menacé ces derniers jours de frapper les bases américaines dans la région en cas de conflit, c'est un scénario qu'on peut imaginer aujourd'hui, Guillaume Ancel ?
Ce serait difficile. L'Iran est extrêmement fragilisé. Il faut bien noter que si les Américains ont bien sûr aidé les Israéliens à préparer cette frappe, et c'est eux qui l'ont autorisé. Et encore une fois, les Israéliens n'ont pas les moyens de le faire tout seuls. Il faut noter aussi que l'Iran a été totalement abandonné par la Russie, parce que son vrai protecteur jusqu'ici, qui lui permettait d'avoir une puissance régionale, souvent assez malfaisante, c'était le fait que Moscou soit derrière. Or, depuis les attaques de 2024 contre l'Iran, qui ont essentiellement détruit d'ailleurs ses systèmes de défense solaire, la Russie ne les a jamais remplacés. Et pour la première fois, la Russie n'a pas prévenu l'Iran de cette attaque en cours d'Israël. Alors c'est eux qui leur fournissaient ce renseignement essentiel, au même titre que ce sont les Américains qui préviennent les Israéliens quand l'Iran tire sur Israël. Et ce temps de prévenance est extrêmement important, comme l'a rappelé Jonathan à l'instant. C'est ce qui fait que il y a une partie des dirigeants politico-militaires qui se sont fait décapiter hier parce qu'ils n'avaient même pas l'information qu'une attaque était en cours. Donc en fait, l'Iran est très isolé actuellement. Je pense que la vraie cible d'Israël, ce n'est pas les installations nucléaires qui sont extrêmement difficiles à détruire dans leur intégralité. C'est de, en réalité, affaiblir et espérer renverser le régime des Mollahs que personne ne regrettera.
Jonathan Piron, une dernière question. Rapidement, nous parlons de guerre depuis tout à l'heure, mais cette nuit, Antonio Guterres a appelé à la fin de l'escalade. La paix et la diplomatie doivent l'emporter. Y a-t-il une chance réelle pour la diplomatie entre les deux pays aujourd'hui ?
À ce stade, ça me semble assez incertain. Chaque acteur considère qu'il doit aller jusqu'au bout de sa logique, aussi bien dans des postures que dans des actions. On voit aussi que le gouvernement Netanyahou considère qu'aujourd'hui, sur la région, il a l'ensemble des cartes en main, un rapport de force qui lui est favorable, la volonté aussi de remodeler le Moyen-Orient. Et donc, si le gouvernement Netanyahou ne veut pas s'engager dans une action diplomatique, il me semble assez incertain qu'on arrive à un apaisement régional.
Merci Jonathan Piron, historien et spécialiste de l'Iran au GRIPS, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles. Merci Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur sur le blog Ne pas subir, auteur aussi de petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. La situation continue d'évoluer. Israël annonce avoir tué 2 généraux iraniens ce matin. Vous continuez de la suivre en live sur notre site rfi.fr et dans toutes nos éditions. Bientôt 7h30 en temps universel.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Haïti, symbole d'une longue injustice. Après avoir mis en déroute les troupes napoléoniennes, Haïti devra payer à la France pour sa liberté. Une dette colossale, étranglement sur les fragiles finances d'un pays. Je vous raconte une révolution, une dette et la perspective d'une restitution.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.